Voilà, les bonnes choses arrivent toujours. Bonsoir à vous tous. Bonjour, on n'est pas encore le soir. Bonjour à vous tous et ravie d'ouvrir avec Madame la Présidente cette sixième édition du festival. C'est déjà la sixième édition. C'est formidable. C'est de plus en plus ouvert, généreux. Il y a beaucoup de monde. Voilà, donc on est ravis. Je vais me permettre, Catherine Pancol, de faire une toute petite présentation pour les gens qui voilà, n'auraient pas une idée très, très précise de qui vous êtes. Rappelez que vous êtes née au Maroc, à Casablanca. Vous avez donc grandi face à la mer et sous les palmiers pour une petite période, puisque vous êtes arrivée très vite en France, toute petite fille, à l'âge de 5 ans. Vous avez suivi des études littéraires qui vous ont d'abord amené à l'enseignement. Je crois d'ailleurs que c'est à cette occasion-là que vous avez fait un passage par Lausanne, donc vous n'êtes pas en territoire inconnu. Et puis un jour, au hasard d'une rencontre, dites-vous, vous êtes devenue journaliste. Et là, ça a été une étape importante. Et puis est venu le premier roman, il s'appelait Moi d'abord, et il est paru en 1979 aux éditions du Seuil. Et puis depuis, vous n'avez pas cessé d'écrire, donc bien sûr, je ne vais pas citer tous vos titres, mais il y a une vingtaine de romans. Ils sont traduits dans une trentaine de pays, donc c'est assez considérable. Et parmi les plus récents, en 2010, il y a eu Les Écureuils de Central Park, Son triste le lundi, qui venait clore une trilogie qui s'était ouverte par les yeux jaunes des crocodiles. Et puis, tout récemment, la dernière trilogie, Muchachas, dont le dernier volume est paru en 2014 chez Albin Michel. J'ai été frappée, Catherine Pancol, par cette phrase, cette formule que vous utilisez lorsque vous dites qu'un jour, au hasard d'une rencontre, vous êtes devenue journaliste, parce qu'en fait, je me suis demandé si c'est l'effet du hasard, le fait de commencer un jour à écrire. Ça a été d'abord l'écriture journalistique, puis ensuite l'écriture romanesque. Est-ce qu'on peut vraiment penser que c'est le hasard, ou bien est-ce qu'il n'y avait pas de toute façon quelque chose qui devait s'accomplir pour vous?
Alors là, c'est la grande question... Là, on va déraper sur, oui, est-ce que le hasard, oui, c'est le destin? Est-ce que le hasard, c'est la signature de Dieu, comme on dit? Est-ce que le hasard, je ne sais pas du tout, mais moi, il y a toutes les choses importantes de ma vie, toutes les choses importantes de ma vie me sont arrivées par hasard. C'est comme si moi, j'étais une petite voiture et qu'il y avait quelqu'un qui me télécommandait et qui me faisait aller dans... Alors moi, je remplis la voiture, je mets des tas de bagages dedans, je la décore, j'entretiens les pneus, machin. Mais après, j'ai l'impression que j'ai été conduite, moi, toute ma vie. C'est très bizarre. Hein. Alors moi, je me suis posé souvent la question, je me pose souvent cette question. Parce que si vous m'aviez dit, petite fille, quand je suis arrivée du Maroc et qu'on habitait chez les uns, chez les autres... Moi, je viens d'un milieu modeste et on n'avait pas d'appartement. Quand on est rentré du Maroc, on n'avait rien et... Et moi, là, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre des livres, d'ailleurs. Déjà, ça, c'était... Parce que, comme on déménageait sans arrêt, la seule chose que je pouvais emporter, c'était un livre. Déjà, ça, c'était quand même bizarre. Mais si on m'avait dit, un jour, tu écriras des livres qui seront lus, et tu pourras vivre de ta passion, et tu pourras faire de ta vie exactement ce que tu as envie de faire... Mais je pense que j'aurais regardé la personne, j'aurais été très, très, très en colère, parce que j'aurais dit, tu n'as pas le droit de me dire ça, parce que c'est donner trop d'espoir à un enfant. Donc, mais après, j'ai été forcée de... Oui, mais c'est une vaste question. Et souvent, moi, je me dis, mais oui, qu'est-ce que c'est que ce hasard qui, et puis qui, quelquefois, m'a rattrapée par les cheveux à des moments où j'aurais dû sombrer. Vous voyez, c'est comme si on me téléguidait, qu'on me mettait dans des positions. C'est pour ça que je suis devenue optimiste, en fait. Je suis devenue optimiste parce que chaque fois où j'étais sur le point de baisser les bras, où j'étais vraiment... Ça n'allait pas bien du tout. J'avais comme quelqu'un qui venait me rattraper par les cheveux et qui me remettait dans la direction où il fallait que j'aille. Voilà. Alors maintenant, on peut disserter sur ce que c'est que ce hasard. Hein. Ça, c'est...
Mais d'autant plus que, en fait, si j'ai retenu ce mot-là, c'est parce qu'il y a chez vous un talent de conteuse extraordinaire. Vous avez vraiment un art de ficeler une histoire comme peu de gens savent le faire. Et je me dis que ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Vous avez une petite idée de d'où ça vient, ce savoir-là?
Je sais d'où ça vient. Vous savez, c'est toujours la phrase d'Hemingway que je cite tout le temps, c'est... quelqu'un qui lui demandait, Monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour être écrivain? Et il disait, une enfance malheureuse. Et je pense que quand vous êtes... De vrai, c'est une juste revanche, je trouve. La vie, et là, je trouve aussi, par exemple, je trouve que la vie est bien faite. pour ça. Parce que quand vous êtes une petite fille, qui, moi je n'étais pas une petite fille qui était joyeuse du tout, j'étais un peu abattue par la vie, mais j'avais le soir je me couchais, j'étais toute seule et je m'inventais des histoires. Je faisais chez Zarade à moi-même, vous voyez. Tous les soirs, je me couchais, mais pendant des heures, ça dure, et je dormais pas beaucoup, je me racontais des histoires. Alors, quand j'étais petite, c'était des histoires de prince charmant, de dragon, de château hanté, vous voyez. Et puis, petit à petit, j'ai énormément lu aussi, parce que du coup, les histoires, je voulais savoir comment les autres racontaient des histoires. Donc, je me suis abonnée à la bibliothèque municipale et je lisais absolument tous les livres par ordre alphabétique. Je lisais tout, tout, tout. Ce qui fait que mes histoires que je me racontais petite fille, s'augmentaient des livres que je lisais. J'avais un monde fou dans ma tête, vous voyez. Donc, je pense que pour moi, c'était un échappatoire, c'était comme si je me faisais mon propre cinéma moi-même. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'écris pour la petite fille en moi. Je continue à me raconter des histoires.
Quand vous évoquez les premiers mots qui ont été imprimés dans un journal, vos premiers mots à vous, c'est une joie immense, et vous dites, j'ai fait le tour du kiosque en dansant comme un sioux, j'ouvrais le journal, je le refermais, l'ouvrais à nouveau, je ne pouvais pas croire que mon nom était imprimé en bas à droite. Cette joie-là, elle est restée, vous l'avez conservée
tout le temps. Oui, tout le temps, tout le temps. Il y a un truc magique, il y a un truc incroyable. C'est fou En plus, c'était un article dans Paris Match. Donc, à l'époque, c'était un grand, grand journal, Paris Match. Et j'étais en gare de Marseille. Je revenais d'un reportage où on m'envoyait suivre un navigateur solitaire. Et encore, c'est pas moi qui écrivais les papiers, normalement. Je rapportais des éléments pour que quelqu'un écrive un papier. Mais là, ils avaient dû... J'avais construit un article, mais j'avais pas signé en partant. J'avais donné les éléments, mais j'avais écrit beaucoup de choses. Et ils ont dû mettre tous les éléments ensemble, et ils ont dû se dire, bon, cette gamine, parce que j'avais 20 ans, on va lui faire plaisir, on va la signer. Et en gare de Marseille, j'ai acheté le journal pour voir ce qu'on avait fait des trucs que j'avais rapportés. Quand j'ai vu mon nom écrit, mais c'était incroyable. Quoi. C'est comme si d'un coup j'existais. Il y a vraiment un truc où on vous dit, tu existes et tu vas... En plus, avec les mots, ce qui pour moi était hyper important. J'aurais gagné un concours de mode, ça n'aurait pas été important. J'aurais gagné... Même quand j'ai fait mes études, ce n'était pas tellement important. Mais tout d'un coup, avoir mon nom imprimé sur du papier, c'était très, très important.
Moi, j'aime beaucoup le fait que vous admettez que vous êtes redevable au journalisme et que c'est là, finalement, que vous avez en partie appris à écrire. Parce qu'on a toujours tendance à distinguer l'écriture journalistique de l'écriture romanesque en disant non, ça n'a rien à voir. Et les écrivains ont souvent du mal, ceux qui sont passés par le journalisme, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ont du mal à reconnaître le fait que c'est une façon aussi d'apprendre à écrire.
Oui, alors c'est vrai qu'on n'écrit pas du tout pareil quand on écrit pour journal. Par exemple, quand j'ai écrit la vie de Jackie Kennedy, que j'ai écrite pour Paris Match au début, donc il m'avait demandé de faire 4 fois 20 feuillets, ce qui était quand même très très long, parce que 20 feuillets à Match, ça fait à peu près 4 pages. Mais donc j'avais écrit 80 feuillets sur la vie de Jackie, mais quand vous écrivez pour Paris Match, qui est vendu alors à des millions d'exemplaires, parce que c'est vendu dans le monde entier, vous êtes obligé de vous dire je m'adresse absolument à tout le monde. Donc et puis vous pouvez pas faire des analyses psychologiques très fouillées, parce que le journalisme c'est des faits. Mais quand il a fallu que j'ai parce qu'après il y a un éditeur qui a lu, encore un hasard, hein, c'est un éditeur qui a lu mes articles et qui m'a dit mais vous devriez en faire un livre, donc j'en ai fait un livre. Mais là j'ai pu réintégrer beaucoup de choses, parce qu'un livre, l'écriture d'un livre, vous creusez les choses, vous creusez la psychologie d'un personnage. Dans un article vous êtes obligé d'aller vite parce qu'il faut que vous gardiez le lecteur au bout de la ligne, quoi. Donc c'est pas la même écriture. Moi j'ai eu beaucoup de chance dans le journalisme, et encore une fois c'était un hasard, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Juliette Boirivaux, qui m'a fait écrire, qui a dû voir dans la gamine que j'étais à l'époque, qui avait tellement de livres dans la tête, Juliette a dû voir ça, et elle m'a appris à écrire. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, voilà, je vais vous apprendre à écrire. Et moi, j'écrivais de manière très, très théorique, très, un peu pompeuse, un peu J'étais à l'université, donc j'écrivais des choses assez balancées. Voilà. Et Juliette, elle a cassé tout ça. Elle m'a dit, mais vous n'êtes pas comme ça dans la vie. Pourquoi vous n'écrivez pas comme vous êtes? Voilà. Et c'est cette là, et c'est encore le hasard. Je n'aurais pas rencontré Juliette. Je pense que je ne serais pas devenue écrivain, parce qu'elle a eu la patience pendant des mois et des mois de me faire réécrire et réécrire des articles. Et surtout, je pense que c'est presque un entraînement. C'est pas qu'on apprend à être écrivain, je pense que j'avais ça au fond de moi. Mais elle a appris à mettre ça en forme.
Alors quand on regarde, Catherine Pancol, l'organisation de vos romans, et notamment bien sûr avec les deux trilogies, on voit que ça relève à la fois d'un genre littéraire très ancien, qui est celui de la saga, puisque ça repose sur l'idée de famille, et puis on suit de roman en roman l'évolution des personnages à travers plusieurs générations, et en même temps, il y a chez vous une efficacité de l'écriture qui donnerait plutôt envie de dire « Ah, mais ça ressemble peut-être plutôt aux séries, telles que les séries télévisées. » Donc peut-être que vous vous reconnaissez après tout dans les deux.
Alors, il y a autre chose qui s'est passée, c'est que moi, je suis partie vivre aux États-Unis assez tôt, et j'étais donc tout d'un coup, j'ai été happée par l'efficacité américaine. C'est-à-dire que les Américains, si vous lisez, par exemple, moi, quand je lis un article français dans un journal, je commence par le milieu, parce que je sais que tout le début, je vais m'ennuyer, quoi. Ça va être nanana, ça va, voyez. Et si je veux avoir l'information, je vais au milieu de l'article. Je commence toujours par le milieu, je vais jusqu'à la fin, et après, je regarde ce qu'il a mis au début. Quand vous lisez un article dans le New York Times, vous commencez par le début. Parce que c'est où, quand, comment, pourquoi. C'est les règles des 4 W. Et où, where, when, what. Voilà. Mais vous avez ça. Et moi, c'est vrai que quand j'ai débarqué à New York, je suis tombée dans cette efficacité anglo-saxonne qu'on retrouve. Quand vous lisez Hemingway, c'est ça. Quand vous lisez John Fante, c'est ça. Tous ces écrivains américains, ils ont un côté journaliste d'ailleurs, ils ont un côté même Salinger. Moi je me rappelle que quand j'ai suivi des cours de comment écrire un roman plus tard, on nous faisait toujours étudier le début d'une nouvelle de Salinger qui s'appelle Un jour rêvé pour un poisson banane, qui est une nouvelle qui est très très triste, et qui en même temps est écrite d'une manière très très légère et assez drôle, sauf que le type se suicide à la fin, mais il n'y a pas un mot abstrait. Il n'y a pas un mot abstrait. Ça, c'est très très difficile de faire ça. Vous savez, c'est très dur parce que c'est beaucoup plus facile de dire il est triste que de montrer la tristesse. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de dire il neige que de montrer la neige, le reflet de la neige dans une ornière de glace, parce que vous êtes obligé de décrire un petit peu l'ornière. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça, c'est cette efficacité qu'ils ont en littérature et du coup qu'ils ont dans les films et dans les séries. Parce que les séries, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des personnages qui sont extrêmement bien construits. Moi, j'ai travaillé une fois pour une chaîne de télévision américaine, pour un feuilleton, et j'ai vu comment ils travaillaient. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment, chaque personnage est très, 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 très fouillé. Et donc, moi, j'ai appris, parce que j'ai quitté la France après mon premier roman. Après être passée par les mains de Juliette Boirivaux, j'ai atterri à New York, et puis après, je me suis allée m'inscrire à Columbia pour. Parce que j'avais fait un premier roman qui avait marché, mais je ne savais pas du tout pourquoi ça avait marché. Après, ils me demandent d'en écrire un deuxième, et je me dis, mais comment je vais faire? Parce que le premier, c'est comme si vous jouez au dé, vous savez, on dit la chance des débutants, vous jetez les dés, vous avez 5 as. Et après, vous dites, mais je ne vais plus jamais avoir 5 as, c'est pas possible, quoi. Et donc, et c'est vrai que dans ces cours de comment écrire un roman, après j'ai fait comment écrire un scénario, comment écrire une nouvelle, parce que c'était passionnant, quoi. Et on vous donnait quand même des. Pas des trucs, mais des justement, c'est ne dites pas, montrez, pas de mots abstraits, écrivez avec vos yeux, votre nez, votre bouche. Et dès qu'il y avait un terme abstrait, on vous rendait votre copie, quoi.
Alors, il y a un mot qui a déjà été prononcé à plusieurs reprises et qui est essentiel chez vous, c'est le mot personnage. Oui. Parce que vos romans sont vraiment des romans de personnages. Est-ce qu'un roman commence toujours avec un personnage? Il n'y a pas forcément d'histoire. Un personnage peut suffire à enclencher.
Ça dépend des romans. Il y a des romans qui commencent avec un personnage, et il y a des romans qui commencent avec une situation. Il y a des romans qui commencent. Je me rappelle, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'étais là avant. Et je me souviens que j'ai eu l'idée de ce livre, donc j'étais à la campagne, je me lève, j'allais poser un pied à terre comme ça, et je me suis dit, dans une histoire d'amour, on n'est pas deux, il y a les parents, les grands-parents, il y a l'histoire de deux familles. Donc il y a un monde fou dans une histoire d'amour, c'est pour ça que c'est tellement dur pour réussir une histoire d'amour. Mais ça, c'est une idée qui était venue sûrement pendant la nuit, dans mon inconscient, et je l'ai eue en me réveillant. Donc soit c'est une idée qui résonne en vous, soit c'est un personnage. C'est quelque chose qui résonne en vous. Vous ne savez pas pourquoi. Ce qu'il y a de formidable aussi dans l'écriture, c'est que quand vous commencez à écrire, vous êtes obligé de creuser cette chose inconnue qui est venue vous interpeller, soit pendant votre sommeil, soit dans la rue. Le muchacha, c'est parce que j'ai assisté à une scène terrible. Mais pourquoi j'étais là? Là aussi, c'est le hasard. J'étais là, cette heure-ci, dans ce restaurant où j'ai vu une femme se faire tabasser par son compagnon devant moi, quoi, vraiment à la table à côté. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, mais qui est cette femme? Pourquoi elle se laisse faire comme ça? Qui est cet homme? Pourquoi? Et je me pose un milliard de questions auxquelles je vais répondre en inventant une histoire. Donc, je suis obligée de créer le personnage de la femme, le personnage de l'homme. Et puis après, ça s'étend, je fais les enfants, les parents, vous voyez,
Alors, dans Muchachas, justement, on retrouve, dans l'arbre familial, il y a la famille Cortés, hein, il y a le tronc très solide, déjà bien installé dans votre œuvre, avec, me semble-t-il, Joséphine comme personnage un peu central. Et puis là, il y a une nouvelle branche à travers donc, son père, Lucien Plissonnier, qui est mort, mais on découvre qu'il a eu une deuxième vie, en fait. Donc, le fait de créer une nouvelle branche sur l'arbre, mais tout en reprenant les personnages qui existaient déjà, est-ce que ça veut dire que les personnages qui existaient déjà ont voulu de nouveau être présents? Ils sont venus un peu...
Oui, parce que moi, je n'avais pas du tout prévu de faire une trilogie. Moi, je pensais... Quand j'ai écrit Les yeux jaunes des crocodiles, quand j'ai fini Les yeux jaunes des crocodiles, c'était fini, quoi. C'était terminé, j'ai rendu mon manuscrit, c'était fini. Et puis, je crois que c'est un an après où... Tout d'un coup, ils sont tous revenus. Tous les personnages sont revenus. Parce que je m'étais attachée, parce qu'on s'attache aussi aux personnages. Moi, il y a des personnages qui sont aussi, pratiquement aussi importants que les gens avec qui je vis. D'ailleurs, de temps en temps, je mélange la vie, les livres. Et donc, ils reviennent et j'avais envie de prendre des nouvelles. Je me disais, mais comment ils vont? Mais comment elle s'en sort, Joséphine? C'est pas facile. Et Hortense. Et à force de me poser des questions, je me suis dit, il y en a une seule qui peut répondre, c'est toi. Et j'ai écrit La Valsolande des Tortues. Et c'est pareil, après La Valsolande des Tortues, j'avais dit c'est terminé. Et puis pouf, ça revient. C'est comme ça revient, et ça revient très, très fort, je me dis, ça veut dire qu'il faut que je continue. Je ne suis pas. Au début, à chaque fois, j'ai envie de passer à autre chose, mais à chaque fois, ils reviennent. Et c'est vrai qu'ils sont entêtants. C'est des personnages qui, moi, me quittent pas, quoi. Quand je suis à New York et que je me promène dans la rue, je passe devant la maison. C'est la maison d'Hortense et Gary. Vous voyez, je traverse Central Park. Je pense tout de suite à mes personnages. Quand je vais à Londres, je pense tout de suite à Philippe, à son bureau, chez où est son bureau. Donc je vis. On a plusieurs vies comme ça quand on écrit. On a la vie de ses personnages, on a sa vie à soi. Et on passe son temps à faire l'aller-retour entre les deux.
Alors on va parler de la nouvelle branche ouverte avec Lucien Plissonnier, mais quand même quelques mots d'Hortense et de sa mère Joséphine. C'est intéressant parce que vous avez créé un couple de femmes, la mère et la fille, qui sont fondamentalement différentes. L'une est dans le doute permanent, la mère, et c'est une femme qui est très douée pour l'amour, pour l'amitié, c'est une femme généreuse, et elle a une fille qui est d'une ambition absolument démesurée. Du coup, c'est très intéressant parce que ça vous permet de créer des grands écarts permanents entre ces deux portraits de femmes, quoi.
Alors, le truc aussi, c'est pour ça que je trouve que la réalité, ça rentre dans la fiction. Joséphine, elle est née parce que dans ma maison en Normandie, j'aime bien aller me baigner le matin très tôt, quand il n'y a personne sur la plage. Et donc j'ai la mer à moi toute seule. Et un jour j'arrive et il y avait une personne dans la mer. Donc j'étais assez contrariée, mais je me baigne quand même. Et je commence à nager et je tombe sur une dame. Et je tombe sur cette dame, donc on est toutes les deux seules dans la mer, on est obligé de se parler quand même. Donc elle me dit, vous voulez nager, on peut aller plus loin, on va nager ensemble. J'ai dit, d'accord. Okay. Et donc il faut parler, donc on parle. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je ne la connaissais pas du tout. Elle me dit qu'elle a un HDR en littérature spécialisée dans les ventes, dans les colporteurs de journaux dans les campagnes françaises au XVIIIe siècle, journaux faits pour les jeunes filles. Et je la regarde, je me dis, elle doit avoir à peu près 50 ans, donc elle doit faire ça depuis 30 ans. Et je lui dis, mais vous faites ça depuis 30 ans, ce sujet quand même très très pointu. Elle me dit, mais c'est passionnant, vous savez, c'est toute une littérature totalement inconnue. Elle a fait une thèse, genre 6000 pages sur le sujet. Quoi. Et là, tout d'un coup, je la regarde différemment. Je me dis, alors je lui demande comment elle vit, ce qu'elle fait. Et elle était une des 5 spécialistes de ce sujet, parce qu'il y en a d'autres dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc elle va à Londres, elle va à Chicago, elle va à Florence, à Milan, et elle parle des colporteurs dans les campagnes au XVIIIe siècle et des journaux pour les jeunes filles. Et là, je me dis, il y a un monde que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ça. Et du coup, tous les matins, je retrouve cette dame dans l'eau à 8h30 et j'apprends plein de choses passionnantes, parce que c'est passionnant, des gens aussi pointus. Et la femme était charmante, et donc un jour, elle m'invite à déjeuner chez elle. Cette femme qui était quand même très intelligente, très ouverte, très généreuse, enfin qui était une belle personne. Je vais déjeuner chez elle et je tombe sur 2 filles, mais monstrueuses, mais des filles... tellement méchante avec leur mère, mais vraiment méchante, quoi. C'est-à-dire que cette brave femme m'avait fait un rôti délicieux. Les filles, on dit, mais c'est dégueulasse, c'est mal cuit, mais t'es vraiment nulle en cuisine. Ça. Le mari renchérissait. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, mais comment, alors là aussi, comment elle se laisse traiter comme ça? Qui est cette femme? Et alors du coup, je la kidnappe, je la fais parler, et je me suis rendu compte que cette femme, qui était brillantissime, n'avait aucune confiance en elle, pensait qu'elle était nulle, qu'elle était moche, qu'elle était con, qu'elle était, enfin, et ces deux filles, ces deux harpies, et son mari d'ailleurs, c'était une espèce de complot contre l'intelligence de cette femme. Et tout d'un coup, de cette situation comme ça, sont nées Joséphine, Hortense. Alors j'ai fait une fille gentille quand même.
Quand même, oui, la deuxième, oui.
Parce que déjà, je me demandais, je me suis dit, j'ai pas quand même me taper 2 personnages de petites filles monstrueuses. Mais c'est vrai que, et très souvent, je mélange comme ça, je mélange des choses que je vis dans la vie. Et alors après, bon, on les transforme énormément, hein, parce que, mais pendant longtemps, parce que je continue à la croiser dans mon village. Et à chaque fois, je dis merci parce que vous êtes à l'origine d'un personnage qui m'a quand même porté bonheur. Oui. Mais je pense qu'elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend pas compte. Oui. Et moi, j'ai beau la booster, puisque je lui dis mais écrivez, parce qu'elle a plein d'histoires à raconter. Oui. Mais elle n'ose pas, quoi. Elle est comme Joséphine. Sauf que moi, je l'ai vengée en faisant écrire Joséphine.
Voilà. C'est bien, il faut venger les gens. Mais ça, c'est un aspect très intéressant parce que vous attribuez à chacun de vos personnages des passions, des compétences, des savoir-faire très pointus. Alors, c'est soit le 12e siècle, parce que vous avez transposé le 18e, c'est devenu le 12e dans le roman, soit la mode, soit la peinture, la musique. Donc, il y a à chaque fois une recherche absolument considérable pour nourrir chacun des personnages et puis rendre compte de sa passion, parce que tout est juste, hein. Tout est vérifié, tout est... Hein, y a pas de hasard, non, y a, là, il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Mais c'est parce que je pense que ça doit rester du journalisme. Ce que j'adorais dans le journalisme, c'est qu'on va d'un monde à l'autre. C'est-à-dire qu'on fait l'interview d'un prix Nobel un jour. Donc là, il faut réviser. Et le lendemain, vous faites Loana. Alors là, vous ne révisez pas du tout. Et puis après, vous passez à, je sais pas, un homme politique. Alors là, bon. Et puis après, vous passez, je sais pas, à Brad Pitt. Alors là, vous... ou après, on vous envoie faire un fait divers horrible. Vous voyez. Et donc, sans arrêt, vous changez comme ça. Et vous êtes à chaque fois... Enfin, moi, j'étais une journaliste très consciencieuse. Et chaque fois, j'avais des dossiers. Je lisais mes dossiers et tout. À chaque fois, je changeais de monde. Et j'adorais ça dans le journalisme, de changer de monde. Je me serais ennuyée terriblement si j'avais été spécialisée dans un truc dans la vie. J'aurais pas pu... les choses qui sont monomaniaques, j'ai besoin de partir au bout d'un moment. Et donc je pense que c'est pour ça que je donne des passions différentes. Et puis je trouve que les personnages qui sont animés d'une passion sont des personnages qui sont romanesques. Parce qu'ils ont quelque chose qui les dépasse, qui les emmène ailleurs. Et du reste, mes personnages, par exemple, un personnage comme Henriette, même Henriette a une passion, c'est l'argent. C'est quelqu'un qui est passionné par l'argent.
Oh là là.
Ouais.
Oh, celle-là, on ne l'aime pas. Hein.
Oui, mais là, elle finit par être. Moi, je trouve qu'elle finit par être transfigurée par sa passion de l'argent.
Ah, oui.
Au bout d'un moment, je comprends qu'elle soit tellement contente d'économiser 2 euros pendant le week-end. Mmh.
Ça va très loin.
Ça va très loin, mais c'est assez intéressant aussi. Vous voyez, et les personnages qui n'ont pas de passion, c'est pas des personnages romanesques, parce que ils sont plats, quoi. Ils ont une dimension. On peut pas en faire grand-chose.
Alors, dans la série des personnages peu sympathiques, il y en a un qui ouvre la trilogie de Muchacha, c'est qui est aussi un personnage assez terrible, c'est Ray Valenti. Alors là, on est sur la branche, donc ouverte par Lucien Plissonnier, le père. Ça renvoie à cette scène terrible dont vous avez été témoin de ces hommes qui frappent leurs femmes, quoi. Ça doit être difficile d'écrire ces scènes-là, parce que c'est quand
c'est dur, ça. Oui. Ça, c'est très, très dur. Par exemple, la scène de la nuit de noces, qui est quand même horrible, j'avais un mal fou, quoi. C'est-à-dire que c'était horrible. Je crois que je l'ai écrite, j'ai pu toucher pendant... Parce que moi, j'écris, je réécris. Celle-là, je l'ai écrite, et après, j'arrivais à peine à la relire, quoi. Cette scène est horrible. Et en même temps... alors, ce qui est très très étrange, c'est que je me dis, parce que moi, quand j'écris cette scène, je suis à la fois la femme qui se fait battre et l'homme qui bat, puisque je suis dans la tête des deux. Donc, quand j'ai fini d'écrire cette scène et que je lis ce que moi j'ai écrit de l'homme, je me dis, mais ça veut dire que tu as cette personne en toi aussi. Vous voyez, c'est ça qui est très troublant, quoi. Parce que quand je me mets dans la tête de l'homme, c'est tout à fait logique ce qui se passe dans sa tête. Cet homme arrive à saisir la fêlure de cette femme qui fait qu'elle le laisse entrer en elle-même avec sa violence. Parce que c'est elle, à la limite, qui lui dit, tu peux le faire, ça. Et c'est lui qui vous... Et donc moi, je passe, quand j'écris cette scène, où ils sont tous les deux, c'est leur nuit de noces, donc il n'y a pas un monde fou, ils sont tous les deux, et moi, je passe de l'un à l'autre, et c'est ça qui me trouble le plus. Parce qu'écrire l'histoire de la femme, moi, je peux imaginer ça, mais passer, me mettre dans la peau de l'homme, et quand je lis la scène, moi, je trouve qu'elle est... C'est horrible ce que je veux dire, mais elle est très bien, ma scène, en même temps, je me dis, mais comment tu peux... Toi, je ramasse les escargots pour pas les écraser dans la rue, vous voyez. Donc, je suis pas d'un naturel cruel, mais j'ai quand même créé ce personnage et j'ai écrit cette scène. Et ça veut dire qu'on a beaucoup de gens à l'intérieur de soi et qu'on peut basculer dans toutes les directions, quoi. Et c'est vrai que après cette scène, il y a 2 ou 3 scènes comme ça. Voilà, je me disais, waouh, je n'avais pas envie de les relire très vite, quoi.
Et c'est vrai que dans les violences conjugales, on le dit souvent, il y a une forme de complicité de celui qui est victime. Enfin, en tout cas, dans le roman, on voit bien que Léonie...
C'est pas qu'elle soit complice, Léonie.
Elle n'est pas complice, mais
c'est qu'elle a été habituée à être traitée comme ça, et donc...
Elle permet.
Elle continue qu'on la traite comme ça. Et c'est tout ce mécanisme, parce que, évidemment, pour faire le personnage de Léonie, par exemple, j'ai interviewé 20aine de femmes battues. Au début, je pensais que j'allais avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver des femmes battues, mais pas du tout. C'est-à-dire, même dans mon petit village en Normandie, on me disait, tu travailles sur quoi? Donc je disais, je travaille sur l'histoire d'une femme battue. Ah ben tu sais que dans le village, tu sais que là-haut, tu sais que là. Et j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver, vous voyez. Et des amis que je connaissais depuis très longtemps, qui venaient me voir à la campagne quand j'écrivais, et alors tu travailles sur quoi? Qui me disaient, mais Catherine, moi j'ai été une femme battue. Et je ne pouvais pas l'imaginer. Donc je me disais, mais c'est fou le nombre de femmes, soit qui ont été malmenées ou battues ou violées, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce, de la part de Léonie, en tous les cas, dans la scène de la nuit de noces, il y a un moment où elle laisse entrer la violence en elle, où elle aurait pu arrêter. Parce que lui, il y va parce qu'il sait que c'est permis, quoi, qu'il a le droit. Mais je pense que si elle l'avait arrêté tout de suite... Ils auraient eu des rapports différents. Parce que lui, il est aussi victime d'une enfance où il a été humilié, maltraité. Donc il réagit comme ça parce qu'il ne connaît pas d'autres moyens de réagir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, c'est pas du tout en ordre du tout. C'est très dérangé dans sa tête. Mais si elle aurait peut-être pu mettre de l'ordre dans sa tête. Sauf qu'elle ne se fait pas assez confiance en elle et on retombe dans cet éternel problème féminin, qui est quand même un problème féminin terrible, c'est que les femmes n'ont absolument pas confiance en elles. C'est terrible, ça. Moi, je vois les mails que je reçois, c'est touchant, c'est émouvant, parce que les femmes, et pourquoi Joséphine a eu autant de succès, c'est parce qu'elle représente ce manque de confiance des femmes en elles, qui ont toujours peur que quelque chose leur tombe sur la tête.
Alors c'est vrai que les femmes sont au cœur du dispositif romanesque, il y a beaucoup de très beaux personnages de femmes, il y a des hommes aussi, et il y a surtout des femmes, alors bien sûr qui vivent, comme toutes les femmes, des histoires d'amour, qui sont mères, qui aiment leurs enfants, qui aiment les hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont un talent incroyable, et Joséphine en fait partie, pour les amitiés. Oui. Les amitiés féminines, c'est important, il y en a deux très belles dans vos romans, il y a celle de Joséphine et Shirley, puis après il y a celle de Stella aussi.
Oui, avec Julie.
Oui, ouais. Et ça c'est... Ouais. C'est important les amitiés entre femmes.
Moi, je trouve que c'est très très important. Moi, je pense que on parle toujours que de l'amour. Vous voyez, l'amour. Ok, mais l'amour, d'abord, ça vous met dans un état assez lamentable parce que vous passez votre temps à vous dire est-ce que je suis assez bien, est-ce qu'il va rappeler, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il va me tromper. Enfin, c'est que de l'angoisse quand même.
Hein. C'est vrai. C'est vrai.
C'est rarement des peut-être 15 jours où on se dit ça y est, on tient le bon bout, mais sinon c'est que des moments où on se pose des c'est vrai, moi je trouve ça terrifiant d'être tombée amoureuse, c'est un truc, je trouve ça absolument, parce que d'un coup on est livré, on sait plus à quoi s'accrocher. Tandis que l'amitié, c'est formidable l'amitié, parce que c'est une générosité incroyable, on donne tout et on a quand même. Alors évidemment, il y a toujours la meilleure amie qui part avec votre Jules ou un truc comme ça, mais c'est quand même... ça arrive pas tous les jours quand même, mais il y a une espèce d'échange, et puis on peut grandir avec une amie, elle vous apprend des choses, vous lui apprenez des choses, il y a une générosité, on la regarde, et il n'y a pas cette espèce de peur qui est... L'état amoureux était quand même un état qui appartient à la peur, quoi, alors qu'il n'y a pas ça en amitié.
Il y a une autre chose que je trouve très frappante dans la façon dont vous écrivez, dont vos livres sont construits, c'est le rôle accordé au lieu, parce qu'en fait les histoires alternent les unes les autres, on retrouve un personnage et chaque personnage est associé à un lieu. Alors il y avait déjà New York, il y avait Londres et Paris, là il y a Saint-Chaland qui vient s'ajouter. Je dois avouer qu'au départ je ne savais pas où c'était.
Mais ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, Saint-Chaland. J'étais convaincue que c'était un vrai lieu.
Non, je l'ai inventé parce que comme c'est une ville où il se passe des choses
quand même pas très... Oui.
Je n'avais pas envie d'avoir une municipalité contre moi quand même.
Voilà. Mais là, alors du coup, c'est un lieu très différent des autres, parce que là, on est dans la campagne française.
La campagne, ouais.
Voilà. Et donc, du coup, c'est tout un autre univers qui est introduit à l'intérieur du roman à travers le lieu.
Oui, hein, voilà. Oui, c'est très important, les lieux. Alors moi, j'ai la chance de venir de... J'avais une grand-mère qui était paysanne, un grand-père paysan. Après, j'ai des grands-parents qui ont été des sortes de Romanichel. Donc moi, j'ai petite fille, j'allais partout. Donc je connais la campagne. Enfin, je connais la campagne. Je serais incapable de traire une vache, mais enfin, je sais ce que c'est que de, par exemple, faire les foins. J'ai vu faire les foins. Je sais comment on fait de la crème fraîche épaisse. Enfin, il y a des choses que je sais quand même. Donc j'ai ça. J'ai vécu 10 ans à New York, donc je connais quand même très 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 bien New York. Moi, je suis parisienne. J'ai habité à Londres, et grâce à ce métier de journaliste, j'ai fait tous les milieux. C'est-à-dire que je peux aussi bien faire les collections à Paris, où je suis à l'aise, que d'aller à la campagne, parce que je sais ce que c'est. Et donc, j'ai pas de mal à passer d'un milieu à l'autre. Je suis pas marquée par un. Et puis, j'ai un autre truc, c'est que quand je me promène, moi, j'écoute ce que les gens disent tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que dans la rue, j'attrape des bouts de dialogue et puis je regarde les gens. Et si vous écoutez les gens dans la rue, c'est formidable. Vous avez des comportements, vous avez des réflexions. Et c'est vraiment. Et moi, j'ai une fille qui écrit pour le cinéma. Elle, et quand on se promène toutes les deux dans la rue, c'est la première qui dit c'est pour moi, ça, je prends. Parce que tellement c'est riche, quoi. Et c'est vrai que ce milieu de Saint-Chaland, qui est donc un milieu rural, et qui est plus dur, qui est beaucoup plus dur, où tous les rapports sont plus durs, j'étais contente de retrouver ça, parce que c'était un truc que j'avais pas encore exploré. J'ai beaucoup écrit sur New York, parce que c'est vrai que quand vous arrivez à New York, c'est un monde tellement... Quand je suis arrivée à New York et que j'ai commencé à vivre là-bas, je me suis dit, mais il y a des histoires à tous les coins de rue, il y a des histoires partout. Donc j'ai beaucoup écrit sur New York, j'ai écrit sur Paris, j'ai écrit sur Lausanne. Mais j'avais pas fait ce côté français dans la campagne avec des choses assez lourdes quand même.
Puis c'est vrai que dans la description des lieux, vous êtes d'une grande précision, parce que quand on connaît New York, Paris ou Londres, on retrouve vraiment des ambiances, des détails, des descriptions, etc. Donc du coup, pour Saint-Chalant, vous avez plus travaillé sur votre mémoire, votre savoir.
Non, je suis allée à la ferme, parce que j'ai des copines partout en plus, donc j'ai une copine fermière, donc je l'ai appelée, j'ai dit « est-ce que je peux venir passer 15 jours chez toi ?» Elle m'a dit « D'accord, mais il faut que tu vives comme moi, parce qu'elle s'occupe des bêtes, des arbres. » Alors elle fait les animaux, elle fait les œufs, elle fait quoi encore, elle coupe du bois, c'est une sorte de bûcheronne. Et donc j'ai passé 15 jours chez elle à vivre comme elle. Et puis un jour, elle m'a dit « Tiens, on va aller dîner avec Gloria. » Et donc on était dîner avec Gloria. Et là, elle m'a amenée chez une fille qui tenait la ferraille locale.
Voilà. Donc c'est comme ça.
Et là, je suis arrivée dans un autre univers, genre New York. Pour moi, c'était incroyable de voir ce truc. Parce que je ne comprends pas pourquoi le cinéma n'utilise pas plus le domaine de la ferraille. Parce que là aussi, tout le monde va à la ferraille. Il y a les gens qui vont vendre leurs petites pendulettes pour 3 francs 6 sous. Il y a tous les escrocs qui viennent refourguer les trucs qu'ils ont volés sur les chantiers. Il y a les grands marchés où on vient vendre les rails de la SNCF. Enfin, il y a les locomotives. Enfin, il y a tout le monde dans la ferraille. Et pareil, quand j'ai fini mes 15 jours à la ferme, j'ai demandé à Gloria, est-ce que je peux venir passer 15 jours à la ferraille ? Et donc, pendant 15 jours, j'avais le casque, j'avais les gants, et j'allais interviewer tous les types, parce qu'il y a surtout des garçons qui travaillent là. Et c'était passionnant, parce que là aussi, il y a toute la société, et non seulement pour le coup française dans la ferraille, mais internationale, parce qu'il y a des Ukrainiens qui arrivent d'Ukraine et qui sont employés plus ou moins sans papier. Enfin, il y a tout un monde interlope qui appartient à la ferraille. Et du coup, je suis restée copine avec ma copine fermière, mais avec Gloria. Donc, je fais des espèces de petits stages où je vais me ressourcer, parce que ça change tous les jours, il y a des nouvelles législations. Et quand je suis en panne pour un terme, je les appelle. Je dis, dis donc, le cuivre, le kilo de cuivre, il est à combien en tout ? Et la TVA, elle a augmenté. Et donc, et ton broyeur, tu l'as changé. Et à chaque fois, c'est intéressant, hein, parce que c'est un monde. Moi, je ne serais pas allée spontanément dans une ferraille. Je ne savais même pas que ça existait. Quoi.
Et c'est vraiment très intéressant, parce que là, il y a quelque chose qui est assez caractéristique des villages et des campagnes, de façon générale. C'est le fait que tout le monde vit sous le regard des autres. Ouais. Donc, on est vraiment dans un tout petit univers. Ça veut dire aussi que tout le monde est au courant, notamment des violences. Voilà. Mais on se tait. On dit rien.
Le silence, dans les campagnes, le silence, hein, ça c'est terrifiant.
Ça, c'est...
C'est ce que dit Stella à un moment, elle dit qu'il y a encore pire que le viol et la violence, il y a le silence des gens.
C'est
terrible, parce que vous croisez les gens, vous savez que les gens savent et qu'ils font rien. Quoi.
Il y a chez vous, Catherine Pancol, une curiosité incroyable. On sent quelqu'un de totalement en empathie avec les gens, et puis toujours à l'affût de quelque chose. C'est une chance inouïe d'être curieux comme ça.
Mais je crois que ça, c'est en naissant. Hein. Moi, je ne suis pas blasée du tout. Je trouve qu'être blasée, c'est horrible, parce qu'il ne vous arrive plus rien. Moi, l'autre jour, j'étais à la campagne, et on m'a dit, est-ce que tu vas aller à l'auto à Bolbec ? Et je me suis dit, à l'auto, je ne suis jamais allée à l'auto, moi. Bolbec, j'y vais rarement. Et moi, j'étais mais excitée comme une puce à l'idée d'aller faire un loto. Puis là-dessus, il faisait tellement beau qu'on est resté sur la plage. Mais je pense que je vais retourner faire un loto à Bolbec. Parce que je me dis, mais un loto à Bolbec, ça doit être encore une autre forme Je vais rencontrer d'autres gens que à la fête des livres de la mort. Vous voyez, je vais rencontrer des gens différents. Et ces gens-là, moi, je me nourris. Me nourris. Prendre le métro, c'est un truc. J'ai toujours un cahier, un crayon, et je marque. Vous voyez des scènes incroyables. Et c'est là où je vous dis, le truc qui est formidable quand on écrit, c'est que moi j'ai l'impression que je me branche sur la réalité, et ça rentre dans mes livres. Mais pareil que quand j'étais toute petite, j'étais déjà comme ça. Quand j'étais au Maroc, j'étais toute petite, ma mère me disait qu'elle ne me voyait jamais, parce que je partais dans la journée, j'avais un petit fauteuil en osier, et je partais parler avec absolument tout le monde dans la rue. Donc je pense que ça, c'est un truc que j'ai dû avoir en naissant. La curiosité de savoir comment les autres... Et puis tous ces gens, comment ils fonctionnent, quoi. Tous ces gens sont... Là, on est dans une salle, je ne sais pas combien on est, mais il n'y a personne qui est semblable à son voisin. tout le monde a un problème différent, une manière de réagir différente, un rêve différent. Je sais pas. Et moi, l'humain m'intéresse vraiment. Quoi. Je suis pas blasée du tout là-dessus. Mmh.
Il y a une très belle phrase de Sénèque que vous citez dans Les yeux jaunes des crocodiles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Est-ce que ça fait partie des phrases qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous...
Oui, moi, ce que je dis toujours, les gens, ils m'écrivent, je reçois beaucoup, beaucoup de lettres, et les gens, ils ont tous envie de faire quelque chose, mais tous, et ils n'osent pas. Et je leur dis, mais essayez, essayez, parce que si ça ne marche pas, ben, vous pouvez vous dire, j'ai essayé. Si ça marche, vous allez être tellement content. Vous voyez, c'est ça le truc. Et le truc, je trouve qu'il y a un truc qui est formidable dans la vie, c'est de faire quelque chose quand on se croyait absolument incapable, et d'arriver à le faire et ça marche. Parce que alors là, vous devenez géant, quoi. Vous avez plus, et ça tue la peur. Parce que la peur, c'est ce que dit Sénèque, quoi. La peur, elle est liée au fait qu'on n'ose pas. Et si on ose, on n'a plus peur. Donc osez, quoi. Allez-y.
Il faut faire comme Hortense, oui, qui incarne très bien ça.
Oui, qui incarne ça. Et qui passe son temps à engueuler sa mère en disant, interdit d'utiliser le mot j'ai peur. J'ai peur qu'il pleuve. Non, dis pas ça, t'as pas peur qu'il pleuve.
Faut pas avoir peur.
Elle a raison. Mais elle a raison. Parce que ça, c'est des limites qu'on se met à soi-même, quoi.
Bon, on va laisser un peu la parole au public, mais quand même une dernière question. Quand on referme le troisième volume de Muchachas, bien évidemment, on est conscient qu'il y a encore des tas d'histoires qui sont restées en... Hein. Donc, il y aura une suite.
Oui, j'ai commencé.
Ah ben voilà.
J'ai commencé parce qu'à chaque fois, je me dis, j'arrête cette histoire. Et puis, en fait, j'arrête l'histoire en inventant d'autres personnages à qui il arrive d'autres choses. Donc, voilà.
Oui, les personnages, ils lâchent pas comme ça. Hein.
Ah, les personnages, ils lâchent pas du tout. Ah non, ils lâchent pas. C'est même drôle parce qu'ils sont, partie prenante de ma vie. Je me rappelle quand mon fils a eu son bac. Et après, il est parti faire ses études en Angleterre. Et donc, quand le diplôme est arrivé, donc j'ai reçu un papier, vous devez venir chercher le diplôme de votre fils. Prière de venir avec ce papier. Donc, évidemment, j'oublie le papier à la maison. Je pars, il faisait beau, je marche. Et j'arrive devant l'école, qui était un immense lycée. Et je dis à la secrétaire, à l'accueil, je dis, j'ai cherché le diplôme de mon fils qui ne porte pas mon nom, vu que je suis divorcée. Alors, elle me dit, il s'appelle comment? Donc, je dis son nom. Vous avez le papier? J'ai pas le papier. Elle me dit, je ne peux pas vous donner le diplôme. Oh, il fallait que je reparte à la maison. Je lui ai dit, mais je connais les professeurs. Donc, et je lui ai donné tous les professeurs de Zoé dans la Valselante. Et à ce moment-là, la dame, elle me regarde, elle me dit, vous êtes Catherine Pancol? Je lui ai dit, oui, c'est dans la Valselante des Tortues. J'ai dit,
elle avait reconnu.
Elle avait lu, et du coup, je suis repartie avec mon diplôme. Mais je m'étais gourée de professeurs. C'est pour ça que ces personnages, ils sont toujours là. C'est drôle quand même.
Ouais, c'est impressionnant même. Les personnages qui sont aussi réels que les vraies personnes. Ouais, quoi. Ouais. Bien, mais écoutez, vos questions sont les bienvenues pour compléter, poursuivre cette conversation. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a des micros. Posez, osez. On sait que c'est toujours la première question qui est la plus difficile, donc allez-y. Oui, madame, au premier rang.
Courageuse, hein.
C'est bien.
Voilà. Merci. Eh ben, je suis ravie de côtoyer pour une fois Catherine Pancol. Comme tout le monde ici, j'apprécie beaucoup. Et ce qui me frappe le plus, justement, c'est la vie des personnages, la vie réelle, on s'y attache, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent, et puis ça devient des personnes qui font partie de notre entourage finalement. Moi, ça m'est arrivé de dire une fois à mon ami, oui, mais ça, c'est pas moi, c'est... Et puis, en fait, tout d'un coup, je me dis, non, mais attends, il n'a pas lu ça, et puis il ne va pas savoir de quoi je parle. Donc, c'est la vie même, et puis justement, écrite d'une manière... une belle écriture, mais qui nous permet aussi de lire ça sur la plage, au jardin, qu'on ne doit pas se dire, mon Dieu, attends, il faut que je me plonge là-dedans, et puis il faut que je m'y mette. On vit avec. Et comme moi, je lis très vite, ben, je relis aussi parce que, après, ben, comme dans la vie, on a oublié des événements où on ne les ressent plus la même chose. Et puis, quand on les relit plus tard, une année ou deux plus tard, ben, on voit des choses différentes aussi. En tout cas, merci pour tout ce que vous nous apportez. C'est vraiment riche.
Merci.
C'était pas une question, mais c'était un témoignage.
Oui, mais c'est courageux, c'est, à la première
c'est
à avoir
bien
parlé.
Aussi, ah, oui. C'est très bien aussi, mmh. Les témoignages. Mmh. Une autre intervention.
Bonjour, c'est une question. Bonjour. Comment faites-vous dans le quotidien, c'est peut-être un peu personnel, vous passez de vos personnages dont vous êtes imprégnés pour passer à la vie de Madame Tout-le-Monde, dans sa cuisine, confrontée à sa famille, ses enfants, etc.
C'est très très difficile parce que ça, je sais que quand les enfants étaient tout petits, parce que pour mes enfants c'était compliqué de savoir ce que je faisais parce que j'étais à la maison, je travaillais à la maison et ils sentaient bien que j'étais plus là, qu'il y avait un moment où j'étais plus là. Et quand je finissais de travailler, il y a un moment où il faut que je redescende parce que je pars dans un autre monde, donc il faut que je revienne à la réalité. Et je sais que par exemple, le soir, quand je... parce que moi je travaille tous les jours de 2h à 7h, 7h30. Tous les jours, je travaille. Donc le matin, ce que je fais, c'est que je fais tout ce qui est maison, papier, enfin tous les trucs quotidiens. Et puis je déjeune et après, de 2h à 7h, j'écris. Et les enfants, quand on passait à table, genre 7h30, donc moi j'avais juste une demi-heure, vous voyez, pour décompresser, ils me disaient toujours, mais tu es où, maman? C'était toujours la question qu'ils posaient. Mais t'es où? Parce que j'étais pas là, en fait. C'est-à-dire que je les écoutais parler. Mais moi, j'étais encore de me dire, ah, mais là, j'aurais peut-être dû faire un paragraphe. Oui, puis alors là, il faut peut-être que... Et donc, j'étais pas avec eux complètement, parce que, vous voyez, il faut un temps de décompression. Et c'est pour ça que je pense que c'est très, très difficile d'avoir une vie normale. Il faut vraiment compartimenter les choses. Surtout avec des enfants. Quand vous êtes avec des adultes, ils comprennent. Alors, plus ou moins, ça, c'est le problème. Parce qu'il y a aussi un côté... Vous pensez qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, tout le temps, tout le temps. Cet été, il m'est arrivé une expérience très, très drôle pour moi, parce que moi, je sais ce que ça fait d'écrire. Parce que moi, je commence un livre, si j'ai une histoire d'amour, je la paume en route. Je suis sûre que je vais oublier, parce que j'oublie tout, j'oublie les dates. Il faut que je me fasse des mémento pour tout, quoi. Et donc cet été, comme moi, on m'a vraiment appris à écrire. Ce que je fais très souvent, c'est que je prends une jeune personne et je la fais travailler, quelqu'un qui veut écrire, hein. Donc je la prends 3 semaines, ça, et donc elle écrit, on vit au même rythme, et je corrige le matin ce qu'elle a fait la veille. Et donc la petite jeune fille qui est arrivée, que je connaissais, hein, je prends pas n'importe qui est arrivée à la maison, elle est arrivée, elle vivait une grande histoire d'amour. Et elle me dit, donc 24 ans, grande histoire d'amour, elle me dit, Catherine, ça va être compliqué que je passe les 3 semaines tout le temps là, parce qu'il va falloir que je retourne à Paris... pour voir mon amour. J'ai même pas de problème. De toute façon, moi, je prends personne en otage. Et petit à petit, elle restait. Parce qu'elle était rentrée dans l'écriture. Et je peux vous dire qu'à la fin de l'été, c'était fini. Son histoire d'amour n'existait plus du tout. C'était terminé parce qu'elle a remis sans arrêt son retour à Paris. J'entendais téléphoner. Mais non, c'est pas que je t'aime pas, mais tu comprends là, j'ai un truc compliqué à résoudre. Et elle a été prise dans le livre et elle n'arrivait plus à en sortir. Et à la fin de l'été, on a parlé parce que j'ai dit, tu vois, c'est pas anodin d'écrire. Tu as quand même paumé une histoire d'amour en cours de route là. Mais elle m'a dit, mais le problème, c'est que je m'en fiche maintenant, quoi. Elle avait découvert quelque chose d'autre. Elle était tellement heureuse. Et maintenant, on s'envoie des textos où elle me raconte au jour le jour comment elle découvre une nouvelle liberté aussi. Parce que du coup, elle apprend à vivre toute seule. Vous voyez, donc, c'est pas innocent, le fait d'écrire. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué d'avoir une vie normale et une vie d'écrivain. Enfin, c'est compliqué, ça. C'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, moi, je m'en suis sortie longtemps avec des horaires, en me disant, bon... Et puis, les enfants ont compris. C'est surtout les enfants. Moi, je trouve que c'est les enfants, c'est compliqué. Ils ont compris au bout d'un moment qu'il y avait des moments où je n'étais pas là et que ce n'était pas parce que je ne les aimais pas. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, c'est tu ne m'aimes pas parce que... Non, ça n'a rien à voir, vous voyez. Ou par exemple, vous vous trompez. Moi, je me trompais de nom. Je mélange les... Je mélange les personnages et les enfants, vous voyez, c'est compliqué ça.
Est-ce que c'est plus compliqué pour une femme, peut-être ?
Et je pense que c'est plus compliqué pour une femme, parce qu'une femme, elle doit quand même, il y a quand même, qu'est-ce qu'on fait à manger ? Est-ce que le linge est propre, machin, tout ça ? C'est fatigant. Alors qu'un homme, mon ami, un homme écrivain, il est plus protégé quand même.
Autre question ou intervention ? Oui, madame. Attendez. Le micro arrive.
Oui, pardon. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous prenez des pauses ? Ou si vous écrivez tout le temps ? Tout le temps.
Non,
l'écriture est votre vie.
Non, je fais des pauses. Quand j'ai fini d'écrire un livre, je suis épuisée, mais physiquement, hein, c'est fatigant physiquement. C'est ça qui est très drôle, c'est que, et avec la petite jeune fille là, cet été, on était épuisés. C'est-à-dire que le soir, vous avez du mal. C'est l'été, vous avez envie de sortir, vous avez du mal, hein, vous voyez, c'est fatigant physiquement l'écriture. Alors la fin d'un livre, alors la fin de Muchachas où j'ai fait 1500 pages. Mais je roulais de mon bureau à mon lit, quoi. Je mangeais un morceau de pain, je repartais écrire. Et c'est fatigant physiquement. Et donc je pense, et moi à la fin de chaque livre, je pense que c'est le dernier et que je n'en écrirai, mais depuis le premier, hein, je pense ça, que c'est fini, que j'écrirai plus jamais, quoi. Que j'ai l'impression que comme les coureurs de 100 mètres, vous savez, on se crache sur la ligne d'arrivée, on n'en peut plus, quoi. Et après, moi, j'ai besoin pendant un an. C'est pour ça que je voyage et que je vais dans les pays étrangers. Vous voyez que ce que j'appelle pudiquement la promotion. Mais comme je suis traduite dans beaucoup de pays, il y a des pays que je ne connais pas du tout. Et donc, j'en profite. Là, je voyage. Et là, je me repose et je me remplis. C'est comme si j'avais vidé mon réservoir. Et pendant un an, je remplis le réservoir. Et puis après, ça recommence. Voilà.
Une autre question. Oui, madame, là-bas à gauche. Il y a le micro qui arrive vers vous.
Madame, vous parlez de remplir votre réservoir. Mais vous mettez combien de temps réel pour écrire un livre ?
Alors, ça dépend des livres. Hein. Là-bas, il y a par exemple Un homme à distance, qui est un livre relativement court, qui est un livre de correspondance. Que j'avais énormément préparé en amont. Parce que c'est un livre qui parle d'amour et de littérature. C'est deux personnes qui s'écrivent et qui tombent amoureuses en parlant des livres qu'elles aiment. C'est justement le rapport entre les livres, les mots et la vie. Et celui-là, je l'ai écrit assez vite parce que c'était compliqué d'écrire ce livre. Il fallait que j'avançais en m'appuyant sur des livres. Vous voyez, c'est les livres, c'est les titres des livres dont je parlais qui faisaient progresser l'histoire. Donc là, c'était compliqué. Ce n'était pas les personnages, c'était les livres. Et ça, j'ai dû l'écrire en 3 mois. Mais j'ai fait que ça. Ça, c'est le plus court. Mais il y en a, je mets 3 ans. Moi, c'est entre 3 mois et 3 ans, en fait. Muchachas, c'est très long, j'ai mis 3 ans. C'est long. C'est-à-dire que quand vous... Par exemple, là, cet été, j'ai commencé un nouveau livre, et je vous assure qu'au début, vous dites, non, c'est pas possible, quoi. Ça veut dire que je repars pour 2 ans, 3 ans, à faire que ça, tout le temps. Et il y a, de temps en temps, rien que ça, ça me fatigue. Je vais pas y arriver. À chaque fois, je me dis, je ne vais pas y arriver. À chaque fois, j'y arrive. Alors, donc, ça va, quoi. Mais c'est vrai qu'il c'est un peu... On pousse la pierre. Et puis, à un moment, on arrive en haut de la montagne. Et puis, la pierre, elle roule toute seule. Ça, c'est formidable. Il y a un moment dans le roman où vous n'avez plus besoin de... Vous n'avez plus qu'à suivre les personnages. Et c'est là où c'est fatigant physiquement, parce qu'il ne faut pas les lâcher du tout. Vous voyez, vous faites scribe, quoi. Vous êtes là, vous les regardez. Mais il faut quand même monter la pierre jusqu'en haut de la colline, quoi.
Une dernière question ou intervention. Oui.
Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez envie de recommencer ce que vous aviez fait pour Jackie Kennedy ou Louise Brooks, c'est-à-dire de passer du roman à une biographie ou à une conversation. Voilà.
Alors Louise Brooks et Jackie Kennedy, c'est pas la même chose. Louise Brooks, j'ai voulu la rencontrer terriblement. C'est-à-dire que j'habitais à New York, j'ai vu son livre, elle venait de sortir un livre. En devanture, j'ai lu le livre et j'ai trouvé ça tellement magnifique, mais tellement bien écrit, tellement... elle racontait l'histoire d'Hollywood, en fait, en passant par des portraits de gens d'Hollywood. Et quand j'ai lu le livre de cette femme, je pensais qu'elle était morte, Louise Brooks, depuis longtemps, parce que c'était une star du cinéma muet, c'est 1929. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, elle est morte. Et puis, je me suis renseignée, elle n'était pas morte. Et puis après, je me suis re-renseignée, elle habitait dans l'État de New York, mais au nord, près du Canada, à Rochester. Et puis finalement, à force de me renseigner, j'ai rencontré Louise. Et c'est la seule interview où j'ai été impressionnée. Et pourtant, j'ai rencontré des tonnes de gens. Comme journaliste, je crois que j'ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui impressionnaient tout le monde, sauf moi. Louise, je suis arrivée, mais je trouvais pas mes mots. Enfin, en plus, je suis arrivée, j'avais acheté une grande bouteille de champagne et un grand flacon de Chanel numéro 5. Parce qu'elle avait vu personne depuis 15 ans quand je l'ai rencontrée, Louise. Et je suis arrivée, je lui ai offert le champagne, elle ne buvait pas d'alcool, et je lui ai offert le shampoing, le parfum. Elle était allergique. Alors là, ça commençait très très fort. Et justement, j'ai commencé à l'interviewer, et j'ai eu un coup de foudre d'amitié, là. Ça a été... j'avais tellement préparé mes questions, j'avais vu tous ces films, j'étais passée par la Cinémathèque de Rochester, j'avais tout vu. Et donc j'étais imbattable sur le sujet, je connaissais toute sa vie. Et puis à un moment, elle a écrit une biographie, cette femme, qui s'appelle, en français, « La fabrication d'une petite merde ».« The making of a shit ». Et la petite merde étant elle-même, quoi. Et je lui pose la question et je lui dis « Mais comment vous pouvez donner ce titre à votre biographie ?» Et là, elle me regarde. Donc elle était allongée dans son lit, elle avait de l'emphysème, elle ne pouvait pas bouger, elle devait avoir 75 ans. Elle avait toujours son regard incroyable, noir, noir, et elle avait attaché ses cheveux avec une queue de cheval, comme ça, sur le haut de la tête. Elle me regarde, elle me dit « Mais toutes les femmes pensent qu'elles sont des merdes. » Alors moi, dans mon rôle de journaliste, je dis « Ah non, 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 c'est pas vrai, pas du tout. » Et elle arrête le magnétophone et elle me dit « Vous pensez pas que vous êtes une petite merde, vous, de temps en temps ?» Et j'ai dit « Ben oui. » Et là, on a quitté le journalisme, et on est rentré dans le roman. Et là, on est devenus amis, quoi. On est vraiment devenus. Et pendant 2 ans et demi, je suis allée la voir un week-end par mois à Rochester. Et d'abord, après cette première entrevue, j'ai passé 8 jours avec elle. Puis après, j'ai allé un week-end par mois. Et je lui donnais son bain, je lui lavais les cheveux, je lui coupais les ongles des pieds, et elle me racontait. Alors elle me racontait Greta Garbo, elle me racontait Cary Grant, elle me racontait John Wayne, elle me racontait tout Hollywood, quoi. J'ai eu Charlie Chaplin, parce qu'elle a eu des histoires avec absolument tout le monde. Elle était d'un naturel tellement libre et indépendant qu'elle a choqué absolument son époque. Elle était tellement intelligente, et en plus elle n'était pas sortie depuis 15 ans, quoi. Donc elle connaissait pas la vie, elle connaissait rien de la vie. Donc moi j'étais un espèce de messager pour elle, et tous les jours je devais l'appeler à 2h15, et si j'appelais pas, ça, je me faisais engueuler, mais horrible, quoi. Et j'habitais New York à l'époque, je disais mais Louise, c'est pas évident, à 2h15 il n'y avait pas de portable, donc il fallait que je trouve des pièces, que je me mette dans une cabine, enfin c'était compliqué. Et mais ça a été un cadeau, quoi. Ça a été, cette femme était formidable, voilà. Et elle m'a raconté l'histoire de sa vie, et elle m'a dit: tu vas attendre 20 ans, et dans 20 ans, tous les gens de ma famille seront morts, et tu écriras l'histoire de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai écrit Embrassez-moi, avec une autre histoire, qui est l'histoire d'une jeune femme à New York, qui est un peu comme Louise. Tandis que Jackie Kennedy, c'est très différent. J'ai connu les enfants Kennedy, quand j'habitais New York, Caroline et John, et j'ai été frappée par le naturel et la simplicité de ces enfants, qui étaient quand même des enfants légendaires. C'est que moi, la première fois que je les ai vus, vous vous arrêtez parce que vous avez ce souvenir du père, de la mère. Oui, c'est quand même une famille qui marque. Et au début, j'étais impressionnée quand même. Et ils étaient tellement simples et drôles et naturels. Et je me disais, la mère doit être quelqu'un de formidable pour avoir élevé les enfants comme ça. Et là-dessus, quand elle est morte, Paris Match m'a demandé de faire des articles. Et 4 articles, et donc j'ai reçu un gros, gros tas de documentation, et dans ce tas de documentation, il y avait ses carnets intimes qui avaient été volés chez elle par des photographes de match qui avaient tout photocopié, et moi j'ai eu accès à un truc qui était incroyable, j'ai eu accès à son journal intime où elle racontait vraiment sa vie à elle. Donc j'avais pas tous les volumes, hein, j'avais pas tout, mais quand même j'avais de quoi faire. Donc c'était plus journalistique, bien que j'ai de quoi passer au roman, parce que c'est ça la différence entre un article de journal et un roman. C'est qu'un roman, vous pouvez creuser. La vie de Jackie Kennedy est incroyablement romanesque. Cette femme, à 33 ans, elle devient la première dame d'Amérique, et elle est mariée à un homme qui la trompe tout le temps, qui la considère comme, là aussi, comme une petite merde, enfin, vraiment, et qui... Et elle va, elle, se... se se refaire une santé, devenir quelqu'un en se reconstruisant complètement toute seule. Et en même temps, en n'étant jamais sûre d'elle, enfin, toujours les, enfin, moi, là, c'est la thématique qui m'intéresse chez les femmes, quoi. C'est cette espèce de doute perpétuel qu'on a quand on est une femme, donc on pense qu'on n'est jamais légitime, qu'on n'a pas le droit. Et en même temps, elle est arrivée par rapport au monde extérieur, mais est-ce qu'elle est vraiment arrivée par rapport à elle? Je ne sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est comme ça que ces livres, c'est ça que c'est, les livres, ils arrivent par hasard dans votre vie. Voilà, encore un truc de hasard.
Voilà.
Parce que Louise, j'aurais peut-être pas dû la rencontrer, et Jackie non plus.
Voilà. Donc on boucle en finissant comme on a commencé. Merci infiniment, Catherine Pancol, pour ce très très bon moment avec vous. On vous retrouve bien sûr pendant les deux jours qui viennent. Il y a plein de rendez-vous. Reportez-vous au programme. Voilà, on vous souhaite un beau week-end au bord du lac. Je crois que ça va être formidable. Il va faire beau. On va en profiter. Merci à vous tous. Passez une très bonne soirée.
Merci.